6, du soin de l'État pour la sûreté des citoyens les uns vis-à-vis des autres. Moyen d'atteindre ce but. Disposition visant le perfectionnement de l'esprit et du caractère des citoyens. 2. L'éducation publique. Chapitre 6, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État, par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, traduit de l'allemand, par Henri Chrétien, en 1867, je me tourne maintenant vers le soin de l'État, pour la sûreté intérieure des citoyens les uns vis-à-vis des autres. Un examen plus approfondi et plus étendu devient nécessaire car il ne suffirait pas, me semble-t-il, d'assigner d'une manière générale à l'État le devoir de maintenir cette sûreté. Selon moi, il faut absolument poser les bornes que l'État sur ce point ne doit pas franchir. Ou du moins si cela était tout à fait impossible, il faudrait exposer les causes de cette impossibilité et indiquer les caractères distinctifs par lesquels on peut éventuellement les reconnaître. L'expérience, quoique bien défectueuse, montre déjà que ce soin peut s'étendre plus ou moins loin pour atteindre son but. Il peut se contenter de réparer les désordres commis et de punir. Il peut, dans un premier temps, chercher à les prévenir d'une manière générale. Il peut enfin s'efforcer d'imprimer aux citoyens, à leur caractère, à leur esprit, une direction qui conduise vers ce but. Et de même, l'extension peut atteindre des degrés divers. On peut se borner à examiner et à punir les offenses faites aux droits des citoyens ou aux droits directs de l'État. Ou bien, en considérant le citoyen comme un être qui doit à l'État d'utiliser de ses facultés et qui, en les détruisant ou en les affaiblissant, vole pour ainsi dire à l'État sa propriété, on peut également avoir l'œil vigilant pour les actes dont les conséquences n'atteignent que l'agent lui-même. Je rassemble ici tout cela, et par suite, je parlerai en général de toutes les prescriptions de l'État, édictées dans l'intention de promouvoir la sûreté publique. Ici se placent aussi toutes celles qui, ne tendant, ni principalement, ni exclusivement à la sûreté, concernent le bien moral des citoyens. Car, comme je l'ai remarqué plus haut, la nature des choses défend ici toute distinction, et ses prescriptions vise ordinairement au premier chef la sûreté et le calme de l'État. Ce faisant, je continuerai de suivre fidèlement la marche que j'ai choisie jusqu'ici. J'ai admis tout d'abord la plus large influence possible de l'État, puis je me suis appliqué à déterminer successivement tout ce qui doit en être détaché. Maintenant, il ne me reste plus que le soin pour la sûreté. À ce sujet, il faudra de nouveau procéder de la même façon. Je commencerai par le considérer dans sa plus grande extension, puis j'arriverai par une série de restrictions aux principes qui me paraissent être les vrais. Peut-être trouvera-t-on cette marche trop longue et diffuse. Je reconnais volontiers qu'une exposition dogmatique exigerait une marche précisément opposée. Mais dans une simple recherche comme celle-ci, on est sûr du moins d'avoir parcouru le sujet dans toute son étendue, sans avoir rien négligé, et d'avoir développé les principes dans l'ordre où ils découlent logiquement les uns des autres. On a tellement revendiqué, surtout, depuis quelque temps, l'empêchement préventif des actes illégaux et l'emploi de moyens moraux dans l'État. Toutes les fois que j'entends parler de semblables demandes, je me réjouis, je l'avoue, de ce que de pareilles restrictions à la liberté diminuent de plus en plus chez nous et deviennent de moins en moins possibles dans la situation où se trouvent la plupart des États. On évoque l'exemple de la Grèce et de Rome. Mais une connaissance plus exacte de leurs institutions montrerait bientôt combien ces comparaisons sont peu concluantes. Ces États étaient des républiques. Chez eux, les institutions de cette sorte servaient d'appui à leur constitution libérale, laquelle remplissait les citoyens d'un enthousiasme qui faisait qu'on ressentait moins l'influence mauvaise des restrictions à la liberté privée et qui rendait moins dangereuse l'énergie du caractère. D'ailleurs, ils jouissaient aussi d'une plus grande liberté que nous. Et ce qu'ils en sacrifiaient, ils le sacrifiaient pour agir encore, pour participer au gouvernement. Dans nos États, presque tout monarchique, il en est tout autrement. Ce que les anciens pouvaient employer de moyens moraux, éducation nationale, religion, loi morale, tout cela chez nous donnerait moins de fruits et plus de dommages. La plupart, de ce qu'on prend aujourd'hui, pour l'effet de la prudence du législateur, n'est le plus souvent rien d'autre que la coutume nationale, qui, existant déjà, mais chancelant peut-être, et appelant pour cette raison la sanction de la loi expresse. La concordance des institutions de Lycurgue, avec le mode de vie de la plupart des nations barbares, a été magistralement établie par Fergusson XV, Lefcurly Brackett. En Essayons History of Civil Society, Bal 1789, p. 123-146. Chapitre intitulé Of Rude Nation Prior, tout est Establishment of Property. Right, curly bracket. Et quand la civilisation est venue polisser le peuple, il ne restait rien que le fantôme de ses institutions. Enfin, il me semble que le genre humain est arrivé aujourd'hui à un degré de culture tel qu'il ne peut désormais se porter encore plus haut que par l'amélioration des individus. Il s'ensuit que toutes les institutions qui empêchent cette amélioration et qui réunissent davantage les hommes en vastes groupes, sont maintenant plus pernicieuses que jamais. Pour parler d'abord de ce seul moyen moral, dont l'influence s'étend le plus loin, ces quelques observations font déjà voir que l'éducation publique, c'est-à-dire imposée ou dirigée par l'État, est dangereuse sous bien des rapports. D'après tout le raisonnement, qui précède tout dépend strictement du progrès de l'homme dans la plus grande variété. Or, l'éducation publique doit toujours favoriser une forme déterminée, même quand elle veut éviter cet inconvénient et se borner à embaucher et entretenir des maîtres. De là vient qu'elle rassemble tous les maux que j'ai suffisamment exposés dans la première partie de cette étude. Je dois seulement ajouter que toute limitation est d'autant plus pernicieuse qu'elle porte sur l'homme moral. Et, s'il est une chose au monde qui puisse exiger que l'action s'exerce sur l'individu pris séparément, c'est l'éducation, dont le but est précisément de former l'individu. Il est incontestable que cela donne lieu à des conséquences fort salutaires. Par exemple, que l'homme, tel que sa situation et les circonstances l'ont fait, devient actif par lui-même dans l'État. Et maintenant, si je puis ainsi parler, le conflit entre la situation que l'État lui impose et celle qu'il s'est choisie lui-même fait d'une part que l'homme sera formé différemment et d'autre part que même l'organisation de l'État subit des changements qui, tout imperceptibles qu'ils soient tout d'abord, apparaissent nettement si l'on considère les modifications apportées au caractère national. Mais ces effets s'estompent dans la mesure où l'individu reçoit dès son enfance une éducation en tant que citoyen. Évidemment, il est bon que la situation de l'homme et du citoyen concorde autant que possible. Toutefois, cela est vrai seulement quand le titre de citoyen exige suffisamment peu de qualités spéciales pour que la forme naturelle de l'homme puisse se conserver sans rien sacrifier d'elle-même. C'est là le but unique vers lequel tendent toutes les idées que j'ai entrepris de développer dans cette étude. Mais toutes les conséquences salutaires de cette concordance s'évanouissent quand l'homme est sacrifié aux citoyens. Dans ce cas, en effet, bien que les conséquences mauvaises du manque d'harmonie ne se produisent plus, l'homme perd aussi les avantages qu'il s'était efforcé de s'assurer par son rassemblement avec les autres au sein d'un État. Il faudrait donc, selon moi, que l'éducation la plus libre et le moins possible orientée vers des rapports civiques fussent prioritaires partout. L'homme ainsi formé devrait ensuite entrer dans l'État, et l'organisation de l'État devrait, pour ainsi dire, s'éprouver sur lui. Ce ne serait que dans une telle lutte que j'espérerais avec certitude l'amélioration vraie de la Constitution par la nation, et que je ne craindrai pas l'influence néfaste de l'organisation civile sur l'homme. Car même si celle-ci était fort défectueuse, on peut imaginer combien gagnerait l'énergie de l'homme, soit parce qu'elle résisterait justement à ses liens étroits, soit parce qu'elle maintiendrait sa grandeur en dépit d'eux. Mais il n'en pourrait être ainsi qu'autant qu'elle se serait développée précédemment dans toute sa liberté. Car quelle force extraordinaire ne faudrait-il déployer, pour se relever et se conserver encore, si ces liens se faisaient sentir dès la première jeunesse? Or toute éducation publique, en qui domine toujours l'esprit du gouvernement, donne à l'homme une forme civique déterminée. Quand cette forme est bien déterminée en soi, quand elle est belle, quoique spéciale et exclusive, comme elle l'était dans les anciens États, et comme nous la trouvons peut-être encore aujourd'hui dans quelques républiques, non seulement la réalisation en est plus facile, mais la chose renferme en elle-même moins d'inconvénients. Cependant, dans nos constitutions monarchiques, il n'existe, fort heureusement pour le progrès de l'homme, aucune forme ainsi déterminée. Parmi leurs avantages, accompagnés pourtant de quelques défauts, se trouve évidemment celui-ci. Le lien étatique étant toujours considéré comme un seul moyen, il n'est pas besoin, autant que dans les républiques, d'employer les forces individuelles au profit de ce moyen. Tant que le sujet obéit aux lois, tant qu'il se maintient lui et les siens dans la prospérité, et dans une activité nuisible pour personne, l'État ne s'intéresse pas de plus près à son mode d'existence. Ici, l'éducation publique ne se proposerait donc pas pour but une vertu, ou une manière d'être déterminée. Par sa propre nature, en effet, bien qu'imperceptiblement, elle vise, non pas l'homme, comme le fait l'éducation privée, mais le citoyen ou le sujet. Il en résulte au contraire qu'elle rechercherait avant tout cet équilibre de toute chose, qui, mieux que tout le reste, produit et maintient ce calme que les États recherchent avec le plus grand zèle. Toutefois, une pareille ambition, ainsi que j'ai tâché de l'établir lors d'une autre occasion, ou ne produit aucun progrès, ou conduit au manque d'énergie. Tandis que la séparation des routes suivies, propre à l'éducation privée, produit dans la vie cet équilibre entre les divers liens et rapports, avec plus de certitude, et sans rien sacrifier de l'énergie. Si l'on veut interdire à l'éducation publique de promouvoir tel ou tel mode de formation, si l'on veut lui en faire un devoir, de se borner à favoriser le développement original des forces, on arrive alors à une chose impraticable en soi. Là où l'unité d'organisation existe, il se produit toujours une certaine uniformité dans les effets. Par suite, même sous ces prémices, l'utilité d'une éducation publique reste invisible. Car si le seul but est d'empêcher que les enfants ne restent entièrement privés d'éducation, il est toujours mieux, ou c'est un moindre mal, de donner des tuteurs aux patients négligents, et d'aider les indigents. Du reste, l'éducation publique n'atteint même pas le but qu'elle se propose, à savoir la modification des mœurs, suivant le modèle que l'État considère comme le plus convenable pour lui. Si grave, si pleine d'action que puisse être sur la vie entière, l'influence de l'éducation, les circonstances qui entourent l'homme durant toute sa vie, sont bien plus importantes encore. Là où tout ne concorde pas, cette éducation seule ne peut percer. En général, l'éducation doit seulement cultiver les hommes, sans s'occuper de certaines formes civiques à leur donner. Pour ceci, il n'y a point besoin de l'État. Chez des hommes libres, toutes les affaires progressent mieux, tous les arts fleurissent plus joliment, toutes les sciences s'étendent. Chez eux tous les liens de famille sont plus étroits. Les parents s'appliquent avec plus de zèle à prendre soin de leurs enfants, et, ayant plus d'aisance matérielle, ils sont également plus facilement capables de suivre en ce point leurs désirs. Chez les hommes libres, l'émulation naît, et ils se forment de bien meilleurs professeurs, là où leur sort dépend du succès de leurs travaux, au lieu des promotions qu'ils peuvent attendre de l'État. Ainsi, on ne manquera ni d'une éducation domestique éclairée, ni d'établissement pour l'éducation en commun si utile et nécessaire. 16. Lefcurly-16, dans une société bien ordonnée, au contraire, tout invite les hommes à cultiver les moyens naturels. Sans qu'on s'en mêle, l'éducation sera bonne. Elle sera même d'autant meilleure qu'on n'aura plus laissé affaire à l'industrie des maîtres et à l'émulation des élèves. Mirabeau, sur l'éducation publique, p. 12. Right, curly bracket. Mais si l'éducation publique est censée donner à l'homme une forme déterminée, rien ne sera gagné, quoi qu'on puisse dire, pour empêcher la transgression des lois et pour consolider la sûreté. Car la vertu et le vice ne dépendent pas de telle ou telle manière d'être de l'homme. Ils ne sont pas liés nécessairement à tel ou tel côté du caractère, ils se rattachent bien plus à l'harmonie ou à la discordance des différents traits du caractère, au rapport de la force avec la somme des penchants, etc. Chaque mode déterminé d'éducation, pour le caractère, est par là susceptible d'écarts, qui lui sont propres, et dans lesquels elle dégénère. Aussi, quand une nation entière n'a conservé exclusivement qu'un seul mode d'éducation, elle manque de toute contrebalance, et, par conséquent, de tout équilibre. Là se trouve peut-être la raison des modifications fréquentes de la constitution des anciens États. Chaque constitution agissait de telle sorte sur le caractère national, que celui-ci, formé d'une manière déterminée, dégénérait et produisait une constitution nouvelle. Enfin, l'éducation publique, si on lui concède l'entier accomplissement de ses intentions, aboutit à une action excessive. Pour maintenir la sûreté nécessaire dans un État, la modification des mœurs, elle-même n'est pas nécessaire. Mais j'exposerai plus loin les raisons qui viennent à l'appui de cette proposition, car elle se relie à l'effort tout entier de l'État pour agir sur les mœurs, et il me reste encore à parler de deux moyens particuliers qui s'y rattachent plus particulièrement. L'éducation publique me paraît donc être entièrement en dehors des limites dans lesquelles l'État doit renfermer son action 17, Lefcurly-17. Ainsi, c'est peut-être un problème de savoir si les législateurs français doivent s'occuper de l'éducation publique, autrement que, pour en protéger les progrès, et si la constitution la plus favorable au développement du moi humain, et les lois les plus propres à mettre chacun à sa place, ne sont pas la seule éducation que le peuple doit attendre de Locke. Citation. P11. D'après cela, les principes rigoureux sembleraient exiger que l'Assemblée nationale ne s'occupe pas de l'éducation, que, pour l'enlever à des pouvoirs ou à des corps, qui peuvent en dépraver l'influence. Locke. Citation. P12. C'était du soin de l'État pour la sûreté des citoyens les uns vis-à-vis des autres. Moyen d'atteindre ce but. Disposition visant le perfectionnement de l'esprit et du caractère des citoyens. 2. L'éducation publique. Fin du chapitre 6.